La Java des bombes atomiques. Mon nom,
bonjour,
ma femme bricoleur, vous êtes
en
amateur des bombes atomiques, sans avoir jamais rien appris.
Aujourd'hui, nous allons aborder le problème des transports. On l'avait déjà abordé dans une émission, mais à l'occasion d'une étude de la CRIRAD, et nous sommes en présence de Julien Sirène de la CRIRAD, valentinois, donc il est dans nos studios. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et puis, avant d'attaquer notre dossier transport nucléaire, nos billettistes et Georges, il semble qu'on nous a présenté les Japonais comme des gens résignés. Or, on constate qu'ils continuent à s'opposer très majoritairement à la remise en service des centrales et qu'un mouvement de refus, alors de refus provisoire, c'est marqué, de paiement de factures d'électricité est en cours. C'est de ça dont tu veux nous parler.
Tout à fait. Et c'est bien dommage qu'il s'y soit pris après la catastrophe. Mais maintenant, les événements négatifs sont là et il faut bien faire avec. Donc c'est un témoignage qui est tiré de Fukushima Blog. S'il n'y avait pas eu ce gigantesque séisme du 11 mars, il y a 4 ans, je ne serais pas allé protester à TEPCO avec M. Otomi, jeune peintre et père de famille d'une trentaine d'années. Son fils a juste 4 ans. Le petit garçon avait quelques mois lors des événements qui ont eu lieu du 11 au 15 mars 2011. Avec l'explosion de 3 réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi, le jeune artiste s'inquiète beaucoup de la santé de son fils et aussi celle de la génération de son enfant. Ils habitent comme moi à Kawasaki, ville qui se trouve à 250 km de la centrale. Si je n'avais pas appris que ce jeune homme avait créé avec ses amis un mouvement antinucléaire qui consiste à payer la facture d'électricité en retard au comptoir d'une banque, d'une supérette ou à la poste, un yen de plus ou de moins que la somme demandée, en inscrivant une petite phrase ou un mot pour exprimer notre refus de l'énergie nucléaire, je n'aurais pu dialoguer avec des employés de TEPCO. L'action de protestation, le drapeau très saillant en couleur rouge et blanc et le dialogue avec les gens de TEPCO, tout ça c'est également pour lui une forme d'art, m'a-t-il dit. Nous sommes 200 ou 300 ou encore un peu plus qui sommes d'accord avec l'idée de M. Otomi, le prélèvement automatique bancaire et la carte blanche au redémarrage des centrales nucléaires. Sur l'affiche passée à un employé de TEPCO, on lit nos demandes dont la première est le refus du redémarrage de la centrale nucléaire à Kashiwazaki, Kariwa, dans le département de Niigata.
Alors il faut le dire, Georges, ce sont des billets que tu lis en fait d'un blog japonais, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà, donc c'est une reprise de ces blogs et on invite les gens, nos auditeurs, à aller regarder par eux-mêmes. Il y a plein de témoignages très intéressants. Et alors notamment un autre témoignage dont tu t'es parlé, c'est la catastrophe de Fukushima qui a inspiré Audrey Vernon, qui est une réalisatrice, pour écrire un spectacle poético-écologique, dit-elle, qui s'appelle Fukushima Work in Progress, une légende japonaise. Alors qu'en est-il?
En compagnie de Xavier Mathieu, elle le présentera au public de la région parisienne les 19, 20 et 21 mai 2015 à l'Avant-Scène, Théâtre de Colombes. Le blog de Fukushima a voulu en savoir plus sur cette œuvre originale. C'est l'exemple ultime du capitalisme qui, par appât du gain, fait une énorme bêtise et ne sait que répondre après sinon, je suis désolé. Personne n'a été condamné, personne ne le sera et qui va payer ? Les Japonais et le monde entier. Je pense que mon spectacle dévoile la vérité de l'accident, point par point, de façon factuelle, donc objective. Quelques jours avant, un rapport montrait déjà les dangers. Ce qui est fou, c'est que ça aurait pu être bien pire. La gestion de la crise a vraiment été menée par des gens dévoués et sacrificiels. Ils ont tout fait pour que la catastrophe soit contenue. Et voilà ce que donne le minimum de dégâts. 3 coriums, des kilomètres carrés inhabitables, une pollution radioactive incessante, c'est le résultat avec 54 centrales qui se sont arrêtées. On peut imaginer ce qui se passerait dans d'autres circonstances. Si l'accident à Fukushima n'avait pas été contrôlé, entre guillemets, que serait-il advenu? Et que pourrait-il se passer en France où nous en avons 58? L'énergie nucléaire n'est pas maîtrisable, il suffit de 3 heures sans surveillance et le combustible commence sa course à la catastrophe.
Merci Georges. Nous, on verra si on peut faire venir cette pièce de théâtre sur Valence avec Xavier Mathieu, qui, je le rappelle, était le leader du mouvement de la lutte des salariés de Goodyear. Vanessa étant en Angleterre, c'est moi qui la remplace pour son billet. Et on va, elle parle de, du rapport de l'ASN qui vient de paraître, le rapport 2014, qui est paru début avril. Alors que le rapport de 2013 épinglait la centrale du Tricastin et mettait la FBFC de Romans en surveillance renforcée, comme ils disent, cette année, c'est au tour de Cruas de faire les frais d'une enquête pourtant très conciliante d'une autorité très peu indépendante du lobby nucléaire. Alors que dit l'ASN de Cruas? Je la cite. En matière de protection de l'environnement, l'ASN considère que la centrale nucléaire de Cruas-Metz est en retrait par rapport à l'appréciation générale portée sur EDF. L'ASN constate que l'année 2014 a révélé des lacunes en matière de rigueur, aussi bien dans la gestion des déchets, l'exploitation des aires d'entreposage, que dans la gestion des rejets. Du point de vue de l'hygiène et sécurité au travail, l'ASN constate que le taux de fréquence et le taux de gravité des accidents du travail se sont dégradés à partir de l'été. Par ailleurs, les relations sociales sur le site restent complexes malgré les améliorations relevées ces dernières années. Tout ça est mot pour mot l'ASN dans son rapport. Alors, est-ce mieux chez Areva à Romans-sur-Isère? Les appréciations de l'ASN n'y sont malheureusement pas plus élogieuses. Je cite toujours. L'ASN a par ailleurs mis en demeure Areva FBFC de réaliser des travaux de mise en conformité de la station de traitement des effluents du site et a demandé à cette occasion de vérifier la conformité de l'ensemble des rétentions du site, ce qui est plutôt inquiétant pour les riverains de Romans. Ça, c'est moi qui le dis. Concernant l'installation de fabrication de combustible pour les réacteurs de recherche, comme le CERCA, à la suite d'écarts de conformité détectés par l'exploitant en 2014, l'ASN a demandé à l'exploitant de mener une analyse approfondie de l'organisation de l'exploitation de l'installation. En gros, si on résume, l'ASN aujourd'hui met sous contrôle toute l'usine FBSC de Romans. C'est pas une centrale, mais c'est quand même une installation nucléaire de base très importante et particulièrement dangereuse. Et pour rester en Rhône-Alpes, que dit l'ASN des 4 réacteurs de Bugey? Je cite à nouveau le rapport. L'ASN considère que les performances en matière de sûreté nucléaire et en matière de protection des travailleurs de la centrale nucléaire de Bugey sont en retrait par rapport aux performances globales d'EDF. Une insuffisance dans la gestion des emplois et des compétences au sein du service en charge de la radioprotection a conduit à des résultats non satisfaisants sur le plan de la radioprotection, qui se sont traduits par plusieurs événements marquants. La centrale du nucléaire de Bugey ne s'est pas non plus améliorée depuis 2013 sur le plan de l'hygiène et sécurité, et le taux de fréquence des accidents est relativement plus élevé que le taux de fréquence moyen des centrales nucléaires. Ainsi, d'année en année, l'un ou l'autre des sites nucléaires vieillissants de la vallée du Rhône, 12 des 14 réacteurs ont dépassé la limite des 30 années de fonctionnement, sont épinglés par l'autorité de sûreté nucléaire. Il faut noter que l'ASN ne publie aucune analyse annuelle de la qualité des transports nucléaires, pourtant journaliers, dans la vallée du Rhône, mais on en parlera tout à l'heure. Pour conclure, si vous désirez avoir un autre avis de l'état de nos centrales que celui de l'agence gouvernementale, vous pouvez aller sur le site des salariés des industries à risque, nucléaire, chimique, pétrochimique. Ce site s'appelle « Ma zone contrôlée va mal », on en a déjà longuement parlé, et dans un article titré « Quand les centrales nucléaires françaises sont gérées avec la rigueur d'Homer Simpson », En relatant un livre de Thierry Gadeau, qui se nomme « EDF, la bombe à retardement », on peut lire le préambule suivant sur le site. Je les cite. « Tout le monde connaît la famille Simpson, Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, un dessin animé américain qui est une critique féroce de l'American Way of Life. Dans cette série drôlissime, Homer travaille dans une centrale nucléaire et, évidemment, provoque un tas de catastrophes. Avant d'enquêter sur le nucléaire et EDF, je n'imaginais pas que ce dessin animé, totalement loufoque, puisse être aussi proche de la vérité. Quand des salariés du nucléaire en arrivent sur leur site internet à comparer la gestion des centrales dans lesquelles ils travaillent aux mésaventures d'Homer Simpson, on peut affirmer, sans être accusé d'exagération, que les critiques aseptisées de la SN ne reflètent que la partie émergée d'une dégradation régulière de l'ensemble de nos réacteurs nucléaires. Et maintenant, chanson. La chanson arrive. Alors, nos techniciens sont en train de rechercher Claude Nougaro, que l'on va retrouver. Voilà.
Jingle baby, stay up all night with the things you can. Do you won't buy my the potential you'll be that you'll never see the promises you'll only make. Drink up with me now, and forget all about the pressure of day. Do what I say and I'll make it okay. I'll drive them away with images stuck in your head. And people you've been before that you don't want around anymore, they push and shout and won't bend to your will. I keep them stars. I kiss you again between the bars where I'm seeing you there with your hands in the air waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine, keep you apart deep in my separate from the rest, where I like you the best, and keep the things you forgot. And people you've been before that you don't want around anymore, they push and shout.
Vous êtes toujours sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire de Drôme Ardèche. Alors, la CRIRAD vient de rendre publique une étude, la première en France, sur le sujet, sur les transports de matières nucléaires en vallée du Rhône. Et comme le couloir rhodanien concentre de fait les multiples activités de la chaîne du nucléaire dans cette région, tous les types de transports, routes bien sûr, mais aussi rails ou l'avion sont étudiés. Et tous les types de substances radioactives de combustible jusqu'aux déchets de toutes sortes, on peut dire que cette enquête donne des éléments d'analyse qui dépassent très largement notre région. Pour en parler, nous sommes avec Julien Sirène, ingénieur au laboratoire indépendant de la CRIRAD, qui est, comme chacun le sait, basé à Valence. Alors Julien, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Ce rapport vient de sortir. Une première question, parce que personne ne se fait d'idée un peu de ce que c'est exactement que les transports, quel type de matière, combien ce qu'on appelle de colis circule par an.
Alors je pourrais
nationalement et localement.
D'accord. Donc je pourrais me contenter de vous dire que 900 000 colis circulent chaque année en France. C'est un chiffre qui fait un petit peu peur. Le problème, exact. C'est que c'est un chiffre... Alors ce chiffre, on le retrouve assez facilement en faisant des recherches sur Internet. Mais quand on essaye d'aller un peu plus loin, on s'aperçoit que c'est finalement pas une donnée exhaustive. Parce que finalement, personne en France n'a de données exhaustives sur la question. Donc ces 900 000 colis, c'est un renseignement que nous donne l'autorité de sûreté nucléaire, donc qui est entre guillemets le gendarme du nucléaire en France.
La fameuse ASN dont on parlait juste avant.
mais alors quand on interroge l'ASN sur cette question, on s'aperçoit que cette donnée, en fait, il s'agit simplement d'une étude qu'a fait l'autorité de sûreté nucléaire qui n'est pas informée de la totalité des colis qui circulent. Donc en fait, ils ont fait simplement une étude statistique en interrogeant les différents acteurs du transport et en ayant des réponses, parfois en n'en ayant pas, et donc en extrapolant quand ils n'en avaient pas.
Mais pourquoi ils ne sont pas informés? En principe, l'ASN devrait être informée de tout transport de matière non radioactive.
Alors non, on a simplement au niveau réglementaire une obligation d'information pour les quelques pourcents des colis les plus actifs qui contiennent le plus de radioactivité. Mais on a ensuite, disons, plus de 90% des colis qui sont dits radioactifs par la réglementation, mais pour lesquels il n'y a pas d'obligation de notification auprès de l'autorité de sûreté nucléaire.
Alors, ces colis, parce que colis, c'est un terme un peu générique, ça voilà. Peut représenter quoi exactement, ces colis? Ça va du gros wagon de déchets nucléaires jusqu'au petit...
Au petit flacon,
d'un hôpital, quoi.
Donc, c'est effectivement d'ailleurs un terme, nous, qu'on dénonce un petit peu, puisque ça fait, en gros, colis, ça ressemble à une lettre, une lettre à la poste.
Un paquet.
Mais effectivement, le terme colis peut regrouper, en fait, rassemble des objets, disons, qui peuvent être très, très divers et qui peuvent avoir teneur en radioactivité très très différente. Et il faut savoir, donc, alors 900 000 colis à l'échelle de la France, donc on va quand même utiliser le terme colis puisque c'est le seul qu'on a dans les statistiques. 135 000 colis à l'échelle de Rhône-Alpes. Mais par contre, il faut également savoir qu'on a tout un tas de, disons, de, entre guillemets, colis qui ne sont pas concernés par cette réglementation, qui ne sont même pas comptabilisés, parce que vous avez ce qui s'appelle des seuils d'exemption, c'est-à-dire des seuils d'activité en dessous desquels, quand le colis contient moins de radioactivité que ce seuil, le colis n'est pas considéré comme radioactif.
Donc lui, il n'est même plus étiqueté radioactif dans
même
ces cas-là.
Plus. Il n'est même plus comptabilisé. Alors certains acteurs vont le comptabiliser, mais globalement, disons, on ne va pas avoir de statistiques là-dessus. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc dans la, quand on analyse une terre, n'importe laquelle, on va avoir 40 becquerels par kilo d'uranium, 238 dans cette terre. Le seuil d'exemption pour l'uranium 238, c'est 10 000 becquerels par kilo. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir un colis qui contient 9000 becquerels par kilo d'uranium qui ne sera pas du tout concerné par la réglementation transport.
D'accord, donc ça, oui, ça montre que à la fois aujourd'hui, donc quand on parle nationalement des transports, finalement, on en laisse tomber 90%, quoi, qui ne sont pas considérés comme tels. Quoi.
Oui, alors évidemment, les plus dangereux en termes d'activité sont bien comptabilisés, mais après, il faut savoir qu'on a toute une radioactivité diffuse, une grosse quantité de colis, disons, qui n'est pas comptabilisée.
D'accord. Sur bon, donc on dit à peu près 5% de colis qui sont vraiment répertoriés, suivis, etc. par la SN. Comment se passe cette organisation des transports ? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un avis ? On voit bien qu'il y a des transports, donc on va le dire par fer, par route, voire par voie navigable. Est-ce que les responsables de ces organisations de transport sont avisés de ces transports ?
Alors, ça a été une surprise aussi de cette enquête. En gros, l'étude de la CRIRAD a consisté à interroger les acteurs du transport, principalement l'autorité de sûreté nucléaire et les exploitants des installations nucléaires de base de Rhône-Alpes, pour savoir, disons, pour en gros voir quelle était l'information à laquelle tout un chacun avait accès. Et donc, on s'est aperçu aussi, à travers les questions, que finalement, non, on a tout un tas d'acteurs qui ne vont pas être informés. Alors, par exemple, les exploitants de réseaux routiers ne sont pas informés des transports qui peuvent emprunter ces réseaux, mais également, mettons, les maires, les élus, disons, des collectivités, des communes qui sont traversées par des convois, eux non plus ne sont pas informés. La SN nous a répondu que c'était trop compliqué d'informer toutes les communes qui étaient traversées par ces convois. Donc on s'aperçoit que, en fait, tout le long de la chaîne, on a d'une part, disons, des expéditeurs et des réceptionnaires. Bon, alors évidemment, vont connaître les colis qu'ils expédient. Mais ensuite, on a l'autorité de sûreté nucléaire qui, elle-même, ne va pas connaître tous les colis. Et ensuite, alors, on a les acteurs, disons, les exploitants des réseaux routiers et les maires des communes qui, eux, ne sont même pas prévenus du tout.
Alors, c'est quand même un peu surprenant quand même. On se dit que, par exemple, on va prendre l'exemple de l'autoroute, puisque une grande partie du transport, si j'ai bien compris, est surtout par la voie routière.
Oui, c'est en gros 90%.
90% par la voie routière. Donc, on, dans la vallée du Rhône, on imagine que ça circule en grande partie sur l'autoroute A7.
Oui, tout à fait.
Bon, voilà. Comment peut-on comprendre que les entreprises autoroutières ne soient pas avisées de ces transports-là ? Parce que, bon, pas avisées du petit flacon qui sort d'un hôpital, on peut comprendre, mais passe par l'autoroute A7 des transports beaucoup plus conséquents, j'imagine.
Oui, tout à fait, mais c'est vraiment une question que la CRIRAD pose, en fait, que oui, la CRIRAD pose aux autorités, aux exploitants, parce qu'on, à partir du moment où on constate qu'on a tous ces acteurs qui sont pas informés, on va avoir tout un tas de répercussions. On va par exemple avoir des travailleurs, par exemple les personnes qui travaillent au péage, mettons, ou les personnes qui travaillent, disons, qui entretiennent les stations d'autoroute, qui vont pas du tout être informés du fait que des transports, qu'elles vont pouvoir se situer à proximité de transport et donc être potentiellement exposées à de la radioactivité.
Parce qu'on s'est posé la question. Georges, tu voulais poser une question ?
Oui, je voudrais simplement savoir si les colis qui ne sont pas répertoriés en dessous des normes, par exemple 10 000 becquerels, qui seraient en dessous, est-ce que lorsqu'ils sont envoyés groupés, la radioactivité est cumulative ?
Oui, effectivement, la radioactivité est cumulative. Donc après, si vous voulez, il y a un certain nombre de seuils en dessus desquels on a certaines dispositions réglementaires qui se déclenchent et en dessous desquels, ben, on n'a aucune disposition. Du coup, en fonction de la nature des colis qui vont être envoyés, on peut imaginer que, enfin, disons, certains exploitants essayent de distiller les colis qui sont les moins radioactifs pour éviter d'avoir trop de contraintes réglementaires.
Alors, justement, là, on parle des petits colis. Alors, c'est un peu pour nos auditeurs, parce que nous, on a l'impression de connaître un petit peu quels sont les types de transports. Qu'est-ce que vous avez, vous, dans l'enquête, perçu comme transport significatif, on va dire, dans la vallée du Rhône, par exemple?
Alors, simplement pour reprendre les choses, donc, quand on parle de transport de substances radioactives, on a différents domaines qui sont concernés. On n'a pas seulement le nucléaire, on a l'industrie médicale qui va avoir besoin de transporter des sources radioactives pour des traitements ou des examens. On va avoir la recherche et l'industrie non nucléaire. Vous avez un certain nombre d'appareils de mesure de tout un tas de paramètres qui utilisent des sources radioactives. Et donc après, vous avez l'industrie nucléaire. Donc, alors les autorités considèrent que 15% des colis à l'échelle française concerne l'industrie nucléaire, et en Rhône-Alpes c'est plutôt 30%, c'est deux fois plus, comme vous le savez très bien, hein, du fait qu'on a de nombreuses centrales nucléaires dans la vallée du Rhône, mais aussi tout un tas d'installations clés du cycle du combustible, comme la FBFC,
de Romand,
comme Tricastin. Voilà. D'accord. Donc ensuite, les colis, ça peut aller, mettons, par exemple, alors les plus dangereux, ça va être les convois de combustible nucléaire usé, qui vont contenir du plutonium particulièrement radioactif. Donc ça, c'est vraiment le plus dangereux.
Et qui, eux, vont à La Hague.
C'est ça. Mais ensuite, c'est vraiment une question très vaste, parce qu'on peut avoir vraiment tout un tas de domaines. On peut avoir, par exemple, des outils qui vont être utilisés dans des centrales nucléaires et qui seront ensuite contaminés. Donc on va les gérer, disons, dans des centres de gestion de déchets radioactifs. On peut avoir, alors, le combustible neuf, l'uranium enrichi neuf qui part de la FBFC justement pour aller dans les différentes centrales françaises. Donc on a comme ça vraiment une grande palette de convois qui peuvent être concernés.
D'accord, ça va même jusqu'au plutonium, puisqu'à le MOX, j'imagine que la centrale Tricastin est alimentée en MOX, ça doit circuler aussi par camion ou par train.
Oui, effectivement, oui.
Voilà, donc on a... Bon, on va reprendre cette discussion après notre coupure musicale. Et puis on va justement aborder après la coupure un petit peu à la fois les accidents possibles et la situation normale, en fait, parce que les deux sont à étudier. You won't get much closer until you sacrifice it all. You won't get to taste it with your face against the wall. L'émission avant de sortir du nucléaire de Romardèche. On discute, on débat sur les transports de matières radioactives, à la fois nationalement, mais surtout en vallée du Rhône, avec Julien Sirène de la CRIRAD. On parlait donc des différents types de transports, de colis, comme on dit. La première remarque que l'on peut avoir, ou qui vient à l'esprit, c'est de se dire, en cas d'accident, qu'est-ce qui se passerait, quoi. C'est-à-dire déraillement d'un train, accident sur l'autoroute, etc. On a vu que les sociétés d'autoroute ou même la SNCF, de fait, ne savent pas trop bien gérer ce genre de situation. Est-ce que vous avez travaillé ça un petit peu dans l'enquête que vous avez faite sur comment une société d'autoroute ou la SNCF gérerait cet accident?
Non, on a vraiment, disons, la thématique de l'accident faisait pas partie de l'étude globale. Nous, ce qui nous a, enfin, évidemment, c'est une thématique très importante, mais nous, ce qui nous intéressait vraiment, et ce sur quoi la CRIRAD insiste depuis plus de 15 ans, c'est le fait que même en situation non accidentelle, la population peut être exposée à la radioactivité, au rayonnement émis par un convoi de substances radioactives, quelles qu'ils soient.
La population et les salariés aussi, parce qu'on imagine que les cheminots, les conducteurs de camions, tout ça sont...
Oui, effectivement. Donc, alors vous allez avoir les conducteurs proprement dit des transports qui, eux, vont être des salariés considérés comme exposés au rayonnement ionisant et donc vont être suivis, vont avoir des dosimètres. Mais ensuite, vous allez avoir, par exemple, tout le personnel de gare qui va être exposé en particulier lorsque des convois pour une raison ou une autre vont s'arrêter dans les gares. Et ensuite vous allez avoir la population, donc la CRIRAD l'a vu à plusieurs reprises, qui peut très bien être exposée par exemple sur une aire d'autoroute en s'arrêtant, mettons une caravane peut très bien s'arrêter l'été sur une aire juste à côté d'un camion qui transporte des substances radioactives et donc être exposée à un rayonnement toute la nuit.
Oui, on avait vu d'ailleurs sur un film que la CRIRAD avait présenté il y a pas très longtemps, avec Bruno Charéon de la CRIRAD aussi, où il s'est garé avec sa voiture juste à côté d'un camion, il a eu la curiosité de mesurer et effectivement il y avait des réactions très importantes du radiamètre à ce moment-là, quoi.
Oui, c'est le gros problème de ces transports. On s'aperçoit que tout le monde ne sait pas que quand on a un trèfle sur un convoi radioactif, ça veut dire que ce convoi transporte de la radioactivité. Mais ensuite, ce que les gens ne savent pas, c'est que généralement, la présence de ce trèfle et la présence d'un convoi radioactif est associée au fait que le convoi va émettre un rayonnement au-delà du transport, et parfois à plusieurs mètres, parfois à plusieurs dizaines de mètres du transport. Donc on peut très bien être exposé, tout à chacun peut très bien être exposé à cette radioactivité. Et ce que dénonce la CRIRAD, c'est le fait que vous avez en fait d'un côté une réglementation générale sur l'exposition de la population à la radioactivité, les gens ne doivent pas être exposés à plus d'un certain niveau, et d'autre part une réglementation qui est vraiment exorbitante par rapport au transport, qui autorise, disons, des émissions de rayonnement vraiment très élevées au niveau des transports, et on peut venir en contradiction, disons, avec ces autorisations, on peut venir en contradiction avec l'exposition générale de la population.
En faisant l'enquête, là, vous avez donc interrogé l'ASN. Que dit l'ASN par rapport à ça? Parce que, par exemple, on voit bien, on en parlait tout à l'heure, l'ASN donne un avis sur les réacteurs une fois par an, etc. Il n'y a pas d'avis sur les transports, déjà c'est un peu surprenant, mais en plus, on peut être un petit peu surpris. Est-ce que l'ASN, par exemple, décide des itinéraires?
Pas du tout. Non, c'est pas l'ASN qui décide des itinéraires. L'ASN est informée des itinéraires. Encore une fois, je le répète, pour les quelques pourcents de colis les plus dangereux. Mais par contre, l'ASN n'a pas de retour d'expérience a posteriori. C'est-à-dire que si pour une raison ou une autre, le transporteur a dû emprunter un autre itinéraire, l'ASN n'est pas systématiquement informée.
Parce que je pose cette question parce que ça nous avait surpris quand il y a eu le déraillement en janvier 2013 à Saint-Rambert-d'Albon d'un wagon du F4, je crois, c'était à l'époque, mais qui était entouré par deux châteaux nucléaires, c'est-à-dire de déchets très radioactifs. Quand il y a eu ce déraillement, on avait été surpris de l'état des voies ferrées de la SNCF, du triage de Saint-Rambert-d'Albon, et on se disait, mais c'est pas possible, la SN, pourquoi elle n'était pas intervenue pour dire que ces voies ne pouvaient pas être traversées par des wagons nucléaires?
Non, mais effectivement, on s'aperçoit que les moyens de l'ASN dans le domaine sont très limités et il n'y a pas véritablement de dénonciation des problèmes.
C'est le transporteur qui décide s'il fait passer ou pas, quoi.
C'est ça, mais pour donner un autre exemple, l'État est censé, à partir du moment où on a une exposition possible de la population et des travailleurs, l'État serait censé évaluer les risques liés à cette exposition. Et donc quand on interroge l'ASN sur cette question, la réponse est que non, les autorités n'évaluent pas l'exposition à la population induite par les transports. D'ailleurs, ni les autorités, ni les exploitants. C'est une des rares réponses que nous ont donné quelques exploitants, une non-réponse. Les exploitants, par exemple EDF, nous a indiqué que pour ces centrales, ils n'évaluaient pas le risque lié au transport en dehors des centrales.
D'accord. Oui, parce que je vois en Italie, par exemple, il est prévu une évacuation de 15 km en cas d'accident de part et d'autre de la voie ferrée en cas d'accident ferroviaire. En France, on n'a pas du tout étudié ça en cas d'accident, par exemple.
Alors, j'imagine qu'il doit y avoir des plans de prévention des risques. Là encore, ça n'a pas été l'objet de l'étude, j'ai pas de données détaillées à ce niveau-là. Voilà.
D'accord. L'autorité, on parlait justement de l'exposition régulière et accidentelle sur l'évaluation. Comment est-ce qu'on pourrait envisager une telle évaluation qu'est-ce que devrait faire l'ASN en fait pour faire cette évaluation?
Pour faire cette évaluation, il faudrait que l'ASN ait une vision d'ensemble des parcours empruntés, au moins des parcours les plus fréquents, mais disons de manière globale, des parcours empruntés. Et ensuite, à partir du moment où on sait par où les parcours passent, on peut faire des simulations en sachant quelles sont les habitations qui se situent à proximité, quelles sont les fréquences, les quantités de personnes, disons, qui peuvent stationner à proximité, et surtout, quelle est la radioactivité transportée. Mais pour faire cette évaluation, on est obligé d'avoir une vision exhaustive de la situation. Or, on s'aperçoit que c'est pas le cas.
La sortie de votre étude, on a l'impression qu'on voit qu'il y a une quantité de transport de matières radioactives, alors des petites mais aussi des énormes, parce que on peut penser aussi à l'énorme camion qui traverse la route départementale au-dessus de Valence, qui va sur le budget, etc. Il y a d'énormes transports comme ça, mais finalement qui ne sont pas vraiment suivis ni par l'autorité, ni même par l'expéditeur. L'expéditeur l'envoie, puis après il s'en occupe plus. C'est un petit peu ça les transports, quoi.
Effectivement, on s'aperçoit que chacun se renvoie la balle, et finalement on n'a pas de prise en compte globale du risque lié à ces transports. Donc c'est vraiment problématique.
Et alors, suite à cette étude, cette étude, elle a été faite, c'est la CRIRAD qui a décidé de la faire, mais elle a été, si j'ai bien compris, soutenue par le Conseil régional.
Oui, le Conseil régional Rhône-Alpes, donc depuis quelques années, soutient de nombreux projets qui sont proposés par la CRIRAD, donc cette étude rentrait dans ce cadre.
Mais pas au point de s'en emparer et de poser des questions à l'industrie nucléaire sur, parce que à la limite, ça intéresse les élus particulièrement. Le Rhône-Alpes est la région la plus traversée.
Oui, effectivement. Je dirais, après, dans ce type d'étude, c'est plutôt la CRIRAD qui va lancer une communication autour de tel ou tel sujet, que ça soit Fukushima, les transports de matières radioactives, etc. Ensuite, effectivement, la région peut très bien s'emparer de tel ou tel sujet pour appuyer, disons, la communication de la CRIRAD. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas été le cas avec l'étude transport, ça sera peut-être le cas bientôt.
En tout cas, on aura intérêt à développer cette étude auprès des élus, parce que je parlais du conseil régional, mais même les maires, etc., aujourd'hui, devraient être informés des transports qui traversent leur commune, des mesures à prendre, etc., ce qui manifestement n'est pas le cas. Pour conclure un peu, que préconise la CRIRAD, hormis tout ce qu'on vient de dire déjà, parce que j'imagine que vous avez conclu votre enquête par des préconisations, en tout cas des conseils.
Oui, donc ça serait déjà d'abaisser drastiquement les seuils dont bénéficient les transports. Le problème, c'est que ces seuils sont fixés par une réglementation internationale. Alors c'est généralement ce que nous disent les autorités françaises. Alors nous, ce qu'on répond, c'est qu'effectivement, mais la France est partie prenante, disons, de l'élaboration de cette réglementation internationale.
Même très largement, si j'ai bien compris, parce qu'il y a beaucoup de Français
Donc le règlement des transports est élaboré par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et donc dans ce règlement, disons, la France fait partie des 4 pays qui ont le plus de représentants. Et le problème, c'est que l'Agence internationale de l'énergie atomique a pour mission de promouvoir le développement de l'énergie nucléaire civile pour le bien-être de l'humanité. Donc à partir de là, vous avez un organisme qui, d'une part, promeut le développement du nucléaire et d'autre part, élabore les règles de protection de la population. Il y a un problème de conflit d'intérêts patent.
Oui, donc de la place peut-être d'organismes indépendants à l'image de la CRIRAD ou voire d'autres, mais en tout cas, et dans les autres préconisations?
Alors, donc ça serait évidemment améliorer l'information du public, mais ça serait aussi faire en sorte que le problème à l'heure actuelle, c'est que finalement la protection des gens repose sur la capacité des gens à reconnaître un transport comme étant radioactif. C'est pas normal. L'exposition de la population devrait être diminuer, disons, par des protections adaptées et pas simplement sur la propre volonté des personnes. Et ensuite, pour terminer, donc évidemment, nous, ce qu'on dit à la CRIRAD, c'est il faut vraiment développer l'information, la formation, y compris du jeune public, parce que c'est simplement en ayant conscience du risque qu'on réussira à faire bouger.
Donc j'imagine que vous allez faire tourner un petit peu dans les écoles, en tout cas faire circuler votre dossier,
Oui, c'est ce qu'on essaye au maximum. Alors déjà, toute l'étude est accessible gratuitement sur le site internet de la CRIRAD, ainsi que tout un dossier transport et notamment les vidéos sur lesquelles on a pu participer sur la question.
Eh bien écoute, merci beaucoup Julien. Nous, on peut appeler, c'est nos auditeurs, à envoyer régulièrement sur notre numéro de téléphone de Sortir d'une carte Romardèche toutes les informations que vous pouvez avoir lorsque vous rencontrez ou croisez un train nucléaire ou un wagon ou un camion nucléaire, parce que nous les répertorions et nous les suivons et nous donnerons nos analyses également à la CRIRAD. Voilà, merci beaucoup Julien.
Merci
à vous. Maintenant, c'est notre intox contre intox. Alors, voilà. De quoi parle-t-on là aujourd'hui?
Alors, on va faire d'abord un petit tour à la centrale de Fessenheim pour parler de la fuite d'eau de février 2015 et de la communication d'EDF. Alors, que nous dit EDF? Le 28 février 2015, l'unité de production numéro 1 a été mise à l'arrêt suite à un défaut d'étanchéité constaté sur une tuyauterie de la salle des machines. Les équipes de la centrale ont procédé aux réparations de la tuyauterie concernée. Elles ont réalisé les contrôles préalables nécessaires à tout redémarrage. Le 5 mars, une seconde fuite est survenue. Le 7 mars, l'unité de production a été recouplée au réseau électrique national. Le 10 mars, même communication lors d'une séance de la commission locale d'information et de surveillance.
Et que dit le rapport d'EDF suite à cette déclaration du 5 mars ?
Eh bien, le rapport d'EDF, il dit que ça, mais l'ASN, elle, par
de
contre...
Voilà.
L'ASN, par contre, elle dit autre chose. Elle dit que le défaut d'étanchéité correspond à une importante fuite d'eau en salle des machines, un volume vraisemblablement supérieur à 100 mètres cubes s'y déverse. Cette tuyauterie n'étant pas soumise à l'arrêté relatif aux équipements sous pression, ne faisait l'objet d'aucun programme de surveillance. Moins d'une heure après la découverte de la fuite, l'eau met en défaut une armoire électrique, ce qui déclenche une alarme en salle des commandes. L'ASN constate que le jour de l'inspection, EDF n'avait pas vérifié précisément les matériels électriques. Le contrôle a été fait seulement en deux points de la tuyauterie. Le 5 mars, la tuyauterie incriminée est remise en service alors même que les causes exactes n'étaient pas encore connues et qu'EDF avait indiqué à l'ASN que la remise en service ne se ferait pas avant plusieurs semaines. Des vibrations apparaissent très rapidement, puis une fuite d'eau à 1 mètre du tronçon remplacé. À 12h28, une rupture totale de la tuyauterie se produit, déclenchant l'alerte d'évacuation de la salle des machines. Mais les essais mensuels de la sirène étant programmés à midi le premier jeudi de chaque mois, le personnel n'a pas évacué, ne croyant pas à une véritable alerte. Les suites? Le 17 mars, 5 associations interpellées dans une lettre le directeur de la centrale l'accusant d'avoir failli à son devoir d'information, de sûreté et de transparence. Le 30 mars, 5 associations alsaciennes ont interpellé le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Le 21 avril, le réseau Sortir du nucléaire et 4 associations antinucléaires ont porté plainte contre EDF et le directeur de la centrale. Pour expliquer la différence entre communication, mensonge et information, les professeurs pourront se référer à cet exemple.
Et il n'y a pas qu'à Fessenheim, qu'il y a des problèmes d'eau.
Eh non. Si vous suivez l'actualité, vous avez entendu parler de la visite du président Hollande en Suisse le 15 et 16 avril, accompagné entre autres ministres de Madame Royal. Tous les journaux français, Le Monde, Le Parisien, Les Échos, ont parlé d'une visite de réconciliation et des sujets abordés. Fiscalité, investissement, formation professionnelle, croissance verte. Mais deux journaux, Charlie Hebdo et La Tribune de Genève, ont abordé un autre sujet, le Rhône. Quel est le problème? Lors de la sécheresse de 2011, les cantons de Genève, du Valais et de Vaud ont réduit les débits d'eau à la sortie du lac Léman pour rétablir le niveau. Mais en aval, l'eau du fleuve sert notamment au refroidissement des 14 centrales implantées tout le long du fleuve. En 2011, on a frôlé la panne géante, d'où l'immense frayeur. Toute année chaude est une menace pour le château de cartes nucléaire. Et comme ça chauffe de plus en plus, la crise de l'eau entre la France et la Suisse devient un sujet de discorde.
Oui, et puis d'ailleurs, on renverra cet été en cas de chaleur, parce que tous les ans, maintenant, les centrales ont l'autorisation de déverser leurs résidus dans le Rhône en dessous des 500 m3 par seconde prévus par, en principe par la loi. Notre agenda, Céline?
Oui, Bonjour à tous.
Bonjour.
Un agenda un petit peu léger, mais enfin, il y a deux, trois.
C'est le printemps, quand même. Il y a plein de vacances.
Voilà, c'est ça. Pour commencer, donc, le week-end du 16 mai, donc les samedis 16 et le dimanche 17 mai, aura lieu la foire éco-biologique de Nyons, comme chaque année. Donc, il y aura un certain nombre d'animations et conférences sur des thématiques variées et originales. Le samedi soir, il y aura un concert. Et bien sûr, tout au long de ces journées, il y aura de nombreux stands. Donc sur les thématiques écologiques et biologiques. Et notamment, le sortir du nucléaire Andromardèche tiendra un stand pendant cette foire de Nyons, donc les 16 et 17 mai. Voilà. Le 30 mai, il y aura une projection débat concernant Fukushima organisée par la CRIRAD. Donc cette projection aura lieu au navire à Valence. Voilà, ça sera en soirée. Et en fait, ça tombe sur le week-end de l'Assemblée générale.
Ce qui sera l'occasion pour tous nos auditeurs de voir Julien.
Voilà. Ensuite, ensuite viennent les manifestations récurrentes. Tous les samedis matins, place Porte-Neuve à Valence, hein, vous connaissez l'histoire par cœur maintenant. De 11h à 12h30, nous aurons nos obstinés de sortir du nucléaire Andromardèche qui sont ouverts à toute discussion avec vous, donc vous pouvez les rencontrer tous les samedis matins à Valence, place Porte-Neuve. Voilà, elles seront tout à fait partantes.
Mais tu dis elles parce que c'est beaucoup plus les femmes qui y vont le samedi matin.
Il y a aussi des garçons, mais c'est vrai que c'est plus... Les filles qui tiennent bon. Et pour finir, donc notre réunion mensuelle de sortir du nucléaire Andromardèche, qui, contrairement à d'habitude, ne sera pas le quatrième lundi du mois, mais se tiendra le lundi 18 mai. Donc, comme d'habitude, au local de la Frapna, avenue de Verdun à Valence. Et sera couplée, pour une fois, l'Assemblée générale extraordinaire de notre association qui veut revoir quelques petits points sur ses statuts. Voilà.
Statuts et puis le nom aussi, puisqu'étant débat, le changement de sortir du nucléaire en stop nucléaire.
C'est vrai.
Parce qu'il y a urgence d'après nos adhérents et je pense qu'ils ont raison.
Voilà pour ce mois de mai.
Eh bien, merci Céline. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des messages sur le répondeur. Je rappelle le numéro, c'est le 0805 69 67 58. Et vous le trouverez sur le site de Sortir du nucléaire Dromardèche. Vous pouvez retrouver aussi en podcast notre émission sur Radio Méga, mais aussi sur la radio RDWA à 10, et sur la radio...
Déclic
sur Radio Déclic à Tournon. Voilà, merci, j'avais une perte de mémoire, c'est l'âge. Notre prochaine émission sera le 1er juin 2015. Notre équipe à la technique, Jean-Pierre, qui nous fait un grand sourire. On est pile poil à l'heure, il est ravi. Céline pour l'agenda, Jeanne pour le billet d'intox, désintox, Dominique et Georges pour les billets, et Julien qui est resté avec nous jusqu'au bout, et c'est très bien. Et nous allons terminer sur une chanson de Renaud, Hexagone. Jean-Pierre est paniqué parce qu'il ne retrouve plus Renaud, c'est bon. Eh bien voilà, Renaud, Hexagone, et à bientôt au 1er juin 2015. Il ne retrouve plus Renaud, je vais parler à la place de Renaud, mais pas chanter à sa place, hein, parce que là... Bon, je rappelle quand même que effectivement vous pouvez, sur notre répondeur, nous envoyer tous les... À chaque fois que vous croisez un transport nucléaire, nous envoyez les informations car nous les répertorions. Et voici donc Renaud qui arrive.
Grâce à Céline.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie, ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui.